Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en français dans la collection Folio Essai, Le Don de l'Aigle est le sixième volume du cycle de Carlos Castaneda, consacré à son apprentissage auprès de Don Juan Matus, à la croisée du récit initiatique, de l'ethnographie littéraire et de la spéculation spirituelle. Le livre reprend des expériences et des notions déjà abordées pour leur donner une architecture plus large. Castaneda y présente Don Juan non plus comme un maître isolé, mais comme un nagual inscrit dans une succession de guides et responsable d'un groupe de guerriers. Le don de l'aigle désigne la règle transmise dans cette lignée, conçue comme une carte plutôt que comme un dogme. L'ouvrage vise ainsi à relier les épisodes dispersés des volumes antérieurs autour de la conscience, de la perception et du détachement. Il doit toutefois être lu comme une œuvre de Castaneda, dont les prétentions ethnographiques et l'attribution aux traditions Yaqui ont été fortement contestées par les chercheurs. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le don de l'aigle comme règle de transmission plutôt que révélation individuelle. Le concept central du livre ne renvoie pas à un cadeau au sens ordinaire, mais à une règle impersonnelle qui organise le destin des êtres conscients. Dans le vocabulaire de Castaneda, l'aigle est une figure cosmologique associée à la source qui accorde la conscience puis la réclame après la mort. Le don réside dans la possibilité exceptionnelle d'échapper à cette restitution totale par une forme de lucidité et d'organisation énergétique. Cette idée donne au livre une portée plus systématique que celle de simples souvenirs d'apprentissage. Don Juan transmet une carte, c'est-à-dire un ensemble d'orientations permettant de situer les pratiques, les risques et les rôles de chacun dans un ordre plus vaste. La carte n'élimine pas l'incertitude et ne fournit pas de méthode vérifiable au sens scientifique. Elle sert plutôt de cadre symbolique pour interpréter des expériences inhabituelles. En présentant la connaissance comme un héritage à conserver puis à passer plus loin, Castaneda déplace l'accent de l'exploit personnel vers une responsabilité de transmission. Cette structure explique pourquoi l'ouvrage récapitule des motifs déjà connus tout en cherchant à les insérer dans une vision d'ensemble. Deuxièmement, Don Juan devient le maillon d'une lignée de nagual et de guerriers. L'un des changements décisifs de ce volume concerne le statut de Don Juan. Les premiers récits pouvaient faire de lui un instructeur singulier, rencontré par un étudiant et détenteur d'un savoir difficilement accessible. Le don de l'aigle le replace dans une chaîne de nagual, chacun ayant reçu une mission de son propre bienfaiteur. Le nagual n'est donc plus seulement un individu charismatique, il désigne une fonction de guide, de rassembleur et de passeur au sein d'une continuité. Cette reconfiguration modifie également le rôle de Castaneda. Il ne peut plus se définir uniquement comme observateur ou disciple, car l'apprentissage implique l'éventualité de reprendre une charge collective. Le groupe de guerriers devient alors essentiel. Il représente une organisation fondée sur des capacités complémentaires et sur une discipline commune, non une communauté religieuse au sens institutionnel. Sur le plan narratif, cette généalogie donne une cohérence rétrospective aux enseignements reçus. Sur le plan critique, elle renforce aussi le caractère fermé de l'univers castanédien. L'autorité de la règle découle de la lignée elle-même et non de preuves extérieures. Le lecteur peut y voir une mythologie initiatique cohérente, sans la confondre avec une description établie des croyances Yaqui. Troisièmement, la récapitulation transforme les épisodes passés en problèmes de perception. Le livre se distingue par son travail de reprise. Castaneda ne se contente pas d'ajouter de nouvelles péripéties, il revient sur des expériences antérieures afin de les relire depuis une position d'apprenti devenu plus autonome. Ce recul répond à un enjeu précis. Les événements vécus dans l'instant, souvent déroutants ou contradictoires, ne prennent sens qu'à travers une réorganisation ultérieure. La récapitulation devient donc une méthode narrative et cognitive. Elle ne prétend pas restaurer une mémoire pure. Elle cherche à repérer les liens entre des scènes auparavant séparées. Les répétitions de motifs, les changements de perspective et les explications tardives permettent à Castaneda de présenter l'apprentissage comme une transformation de la perception plutôt que comme une accumulation de doctrines. Le lecteur est invité à considérer que les catégories ordinaires, notamment celles qui opposent le réel à l'irréel ou le rationnel à l'irrationnel, ne suffisent pas à rendre compte de l'expérience décrite. Cette stratégie explique l'impression de clarification produite par le volume. Elle constitue aussi sa limite, les concepts sont souvent définis par d'autres concepts du même système, ce qui rend leur examen indépendant difficile. L'intérêt du texte tient alors moins à une démonstration empirique qu'à la construction progressive d'un cadre interprétatif. Quatrièmement, la tierce attention prolonge la quête d'une conscience affranchie des habitudes. La tierce attention occupe une place importante dans l'horizon du livre. Castaneda l'emploie pour désigner un niveau de conscience distinct de l'attention quotidienne et de l'attention développée dans les états non ordinaires. Elle représente moins une technique immédiatement applicable qu'une limite vers laquelle tendent les pratiques des guerriers. À ce niveau, la personne ne s'identifie plus entièrement à son histoire, à ses habitudes perceptives ou à son importance personnelle. Le thème permet de relier plusieurs préoccupations constantes du cycle, la discipline, le contrôle de soi, le rêve et le déplacement du point d'assemblage. Dans le langage de Castaneda, ce dernier désigne le lieu où se stabilise la perception du monde. Son déplacement rendrait possible l'accès à d'autres configurations des réalités. Que le lecteur accepte ou non cette cosmologie, la logique interne est nette, changer profondément exige de suspendre les automatismes qui déterminent ce qui paraît possible. Le livre ne doit pas être reçu comme un manuel clinique de la conscience, car ses descriptions ne reposent pas sur une validation scientifique. Il offre plutôt une méditation littéraire sur les limites du moi ordinaire et sur le coup psychique d'une perception radicalement décentrée. En dernier lieu, une œuvre littéraire marquante dont le cadre ethnographique reste controversé, Le Don de l'Aigle gagne à être situé dans la réception complexe de Carlos Castaneda. Son efficacité vient en partie de sa voix à la première personne, de son vocabulaire mémorable et de la manière dont le récit diffère sans cesse. Une explication définitive? Cette combinaison a attiré des lecteurs intéressés par le chamanisme, les états de conscience et les récits de transformation. Elle a aussi contribué à faire du cycle un phénomène culturel durable. Pourtant, l'ouvrage ne peut être traité sans réserve comme un document fiable sur les Yaquis ou sur les pratiques autochtones du nord du Mexique. Depuis longtemps, des universitaires et des observateurs ont contesté la vérifiabilité de son terrain, la réalité de certains épisodes et l'authenticité de l'attribution de ses enseignements. Cette réserve n'annule pas son intérêt littéraire ou philosophique, mais elle impose une lecture informée. Il est plus juste de l'aborder comme un texte hybride qui emprunte à l'anthropologie son décor et son autorité tout en élaborant une mythologie personnelle de la perception. Cette distinction protège les traditions autochtones contre une assimilation hâtive aux thèses de Castaneda. Elle permet également de mieux saisir la singularité du livre. Sa puissance provient de son système imaginaire, de son montage rétrospectif et de sa capacité à mettre en scène l'incertitude. En conclusion, Le Don de l'Aigle s'adresse d'abord aux lecteurs déjà engagés dans le cycle de Castaneda, car il rassemble et réoriente de nombreux éléments introduits auparavant. Il peut aussi intéresser les lecteurs d'essais littéraires sur la conscience, les amateurs de récits initiatiques et ceux qui étudient la place du chamanisme dans la culture populaire occidentale. Son bénéfice intellectuel ne réside pas dans des consignes directement transférables à la vie quotidienne, ni dans une connaissance ethnographique assurée. Il consiste plutôt à suivre l'élaboration d'un système de perception où mémoire, discipline, mort et responsabilité collective sont étroitement liés. La lecture apprend notamment à distinguer la force d'une construction narrative de la validité factuelle des affirmations qu'elle porte. Par rapport à beaucoup de livres ésotériques, l'ouvrage se démarque par sa fonction de charnière. Il ne propose pas simplement une doctrine, mais recompose un ensemble de récits antérieurs en une architecture de lignées, de rôles et de niveaux d'attention. Par rapport aux enquêtes anthropologiques, il doit en revanche être abordé avec une prudence explicite. Puisque son rapport aux traditions Yaquis est contesté, cette tension fait sa singularité. Le livre reste marquant comme œuvre hybride, capable d'associer récits d'apprentissage, cosmologie personnelle et réflexion sur les cadres qui organisent l'expérience, tout en exigeant du lecteur une distance critique constante. Si vous souhaitez soutenir Carlos Castaneda, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.